Littérature sans frontières.
Catherine Fréchon-Toussaint, Alexandre Cayuela.
Bonjour à toutes et à tous. Entre chien et loup, entre raison et malédiction, réalité et fantastique, le nouveau livre de mon invité aujourd'hui nous emporte dans l'univers de l'étrange et de l'incompréhensible, à l'image du titre de son recueil de nouvelles, Sud Sauvage, aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir, qui souffle cette année ses 25 bougies. Bonjour Gaëlle Bellem.
Bonjour chère Catherine.
Pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître la Réunion où vous êtes née, Sud Sauvage fait référence à la région littorale du sud-est de l'île. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ?
J'ai choisi d'intituler ce recueil de 13 nouvelles Sud Sauvage parce que effectivement, cela renvoie à une région du sud de la Réunion, une région que j'adore. Comment est cette région concrètement ? C'est une région avec une côte particulièrement inhospitalière, une côte naturelle, authentique, côte contre laquelle viennent se fracasser les vagues, mais dans une violence incroyable. C'est pour cette raison que l'on qualifie cette zone de sauvage. Donc j'ai voulu donner à mon recueil ce titre en référence à cette région où j'aime beaucoup me promener, parce que c'est une région qui est aussi une source d'inspiration, mais c'est aussi un petit clin d'œil ironique à cette territoires lointains dont lesquels ont qualifié les habitants autrefois de sauvages. Puis il y a aussi une petite dimension poétique. J'aime bien ce titre qui claque, Sud Sauvage. Et enfin, dernière raison, qu'est-ce que c'est que ce qui est sauvage ? C'est ce qui n'a pas été dompté par l'homme, ce qui n'a pas été apprivoisé par lui. Et par Sud Sauvage, je voulais désigner tous les phénomènes étranges, paranormaux, surnaturels, sur lesquels l'homme n'a pas de prise. Tous ces phénomènes qui dépassent son entendement.
C'est vrai que c'est un titre qui donne déjà le ton de ce recueil composé de 13 nouvelles. Évidemment, un chiffre en lien avec la superstition. Mmh. 13 textes donc qui nous racontent tous une histoire fantastique, qui mettent en scène soit des animaux étranges, des fantômes, des esprits, des malédictions. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien, Gaëlle Bellem, nous lire justement le début de la toute première nouvelle qui s'intitule « Chien-loup » et dont j'aimerais bien que nous entendions maintenant un extrait avec vous.
Très bien. Saint-Denis m'épuise. Las de l'aura malsaine de cette ville, j'ai tout laissé il y a 9 mois. J'ai mis entre parenthèses mon travail, le poste de chargé d'enseignement à l'université, mes audiences au tribunal judiciaire. J'ai offert à ma mère mon téléphone portable et je me suis installée dans les hauts, au lieu-dit la plaine des palmistes. J'habite désormais un chalet dont la façade nord est une immense vitre d'où je contemple par-delà ma cour gazonnée une forêt de cryptomeria, une forêt si sombre qu'elle répand une espèce de ténèbres vertes jusqu'au sentier qui borne ma propriété. Le recueil de nouvelles que vous entendez, je l'ai écrit près de ma cheminée.
Merci beaucoup Gaëlle Bellem. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce recueil que nous lisons a été écrit dans ces conditions ? Et est-ce qu'il est né dans ces circonstances ? À savoir la rencontre que vous allez faire un peu plus tard dans le texte, ou en tout cas la narratrice, avec un chien-loup qui pendant des jours et des nuits est venu la visiter.
Ce recueil a été rédigé effectivement dans ces conditions, c'est-à-dire en partie dans le cœur, à l'intérieur de l'île de la Réunion, dans cette ville, cette commune rurale que l'on appelle la Plaine des Palmistes et qui fait penser un petit peu à la Lozère, à l'Auvergne, à la Corrèze, donc pour la nature verdoyante. J'aime me retirer dans ce type d'endroit pour me concentrer sur ce que j'écris. Oui, j'y ai vu une bête étrange, un chien-loup. Mais il y a autre chose, il y a d'autres éléments qui m'ont amené à raconter une telle histoire. J'étais chez moi, à Saint-Denis, à l'époque, et j'ai 3 trousseaux de clés qui permettent d'accéder à mon appartement. Un jour, je me suis rendu compte que l'une des clés manquait. Je n'y ai pas prêté attention, le temps a passé, une semaine, deux semaines, puis un mois, et puis un deuxième, et jusque-là, personne ne me rendait visite. Un jour, au bout du troisième mois, je me suis penchée un peu par hasard pour réajuster mon paillasson, qui se situe évidemment à l'extérieur de mon appartement, devant la porte, et en le soulevant, j'ai trouvé cette clé que j'avais perdue il y a trois mois, dans cet appartement auquel personne n'a accès. Qui est venu chez moi, est parti avec la clé, et ensuite revenu, non pas pour me la remettre en main propre, mais la glisser sous le paillasson. Tous ces événements étranges, ce chien à la plaine des palmistes, et cette clé, le mystère de cette clé retrouvée sous mon paillasson et qui m'a glacé littéralement le sang, tous ces éléments m'ont donné envie de raconter des histoires absolument frémissantes avec des fantômes, avec des créatures de l'au-delà.
Alors merci beaucoup pour ce témoignage, Gaëlle Bellem, d'autant plus précieux que ces histoires que vous venez de nous raconter, qui vous sont arrivées, ne sont pas dans le recueil.
Non.
Vous vous êtes vraiment appuyée sur d'autres histoires. Est-ce que, par exemple, c'est l'île de la Réunion qui serait particulièrement propice aux croyances populaires qui a pu vous inspirer ?
Oui, l'île de la Réunion. D'ailleurs, les 13 histoires fantastiques se passent exclusivement à l'île de la Réunion parce que nous sommes dans une île, effectivement, où il y a énormément de superstitions. Si on pense à la Roumanie, on va peut-être penser à Dracula, aux Carpates. Si on pense à l'Irlande, on va penser aux fées. Eh bien, l'île de la Réunion est également terroir, je ne parle pas seulement de territoire, mais un terroir riche en créatures mystérieuses. On parle d'homme-coq, une créature un peu comme le centaure, mi-homme, mi-coq, alors que le centaure c'était mi-homme, mi-cheval. On a aussi une créature un peu, une sorcière que l'on appelle Grand-mère Cale. L'île de la Réunion déborde ou regorge de superstitions. Et j'ai voulu, moi, non pas reprendre les classiques des superstitions réunionnaises, mais réinventer un peu et introduire une sauce un peu plus, une touche un peu plus personnelle.
Effectivement, c'est un champ littéraire très universel que vous proposez ici, même si en effet on retrouve par exemple la Timise ou Fouquet Noir, qui est une créature fantastique à La Réunion. Mais j'entends bien en vous lisant et en vous écoutant, Gaëlle Bellem, que ce qui vous intéresse aussi, ce sont toutes ces histoires qu'on peut se raconter de bouche à oreille, et ça circule en effet dans le monde entier, particulièrement dans les cultures portée vers l'oralité.
Exactement. Nous, à l'île de la Réunion, nous savons maintenant 80% de la population parle le créole. Or, le créole est la langue de l'oralité par excellence. Et on a l'habitude, comme ça, le soir, dans les familles, de se raconter, on va dire un peu au coin du feu, des histoires. Et il s'agit très souvent d'histoires qui font peur. Et moi, donc, j'ai voulu retranscrire dans ce recueil de nouvelles quelques-unes de ces histoires et permettre aux gens de répondre à une question. Qu'est-ce qui fait peur à l'île de la Réunion ? De quoi a-t-on peur à l'île de la Réunion ? Alors j'ai voulu parler des villas, des cases créoles qui sont hantées. Il y a donc une nouvelle qui s'intitule « La maison Valiamée », où il est question d'une splendide demeure de maître, une splendide villa créole. Qui est hantée ? Quelles sont les créatures de la Réunion ? Dans l'Hexagone, on a des corbeaux. On n'a pas de corbeau à La Réunion, mais on a un équivalent dont vous parliez, chère Catherine, c'est la Timise, c'est le pétrel de Barreau.
Alors effectivement, on va voir avec vous, Gaëlle Bellem, dans un instant, toutes ces déclinaisons que vous proposez à travers ce recueil de nouvelles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une atmosphère particulière à La Réunion, puisqu'en exergue de chaque texte, vous avez choisi une citation de Lecomte de Lisle, qui est ce grand écrivain français du 19e siècle, célèbre pour ses poésies, et qui est né à Saint-Paul, sur l'île de La Réunion. Qu'est-ce qui vous touche dans l'écriture de cet auteur ?
Lecomte de Lisle était un passionné de mythologie, et moi, qui ai enseigné pendant quelques années le latin, ainsi que les civilisations gréco-romaines. Je suis aussi passionnée de mythologie comme lui, ça nous fait un point commun. Ce que j'aime également chez lui, c'est sa description des paysages de La Réunion. Or, ils ne sont pas légion, ces auteurs, à avoir parlé de l'île de La Réunion. Il y a le comte de Lille, il y a un autre auteur qui s'appelle Eugène Daillaud, qui est très peu connu dans l'Hexagone. Il y a Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, qui dédie un de ses poèmes à une malbaraise, qui parle de l'île de La Réunion, où il a passé quelques temps. Donc, c'est tellement rare un auteur de l'Hexagone. Je rappelle qu'il était chef de file du mouvement parnassien, qu'il a succédé à Victor Hugo à l'Académie française, c'est lui qui a hérité du siège de Victor Hugo. C'est si rare un auteur qui parle de La Réunion que j'ai voulu comme ça mettre une épigraphe, donc mettre en épigraphe une de ses citations pour inaugurer chacune des 13 nouvelles.
On va donc continuer de feuilleter avec vous Sud Sauvage, Gaël Bellem. Pour l'heure, une pause musicale. Alors ici, il est question effectivement de Sega, de Maloya, genre musical propre aux Mascareignes, l'archipel des trois îles dans l'océan Indien, Réunion, Maurice et Rodriguez. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nos auditeurs du monde entier?
Peut-être effectivement un Sega de l'île de La Réunion, d'un des groupes les plus connus à l'île de La Réunion. C'est le groupe Oussa Noussa Va, qui en traduit en français donnerait « Où va-t-on ? Où va-t-on dans l'existence ? Question existentielle. » Oussa Noussa Va, qui écrit une chanson que j'aime beaucoup, c'est « L'odeur mon pays », le parfum de mon pays. Et dans ce titre-là, on sentira énormément de poésie et c'est un magnifique tableau ou même une poésie consacrée dédiée à l'île de La Réunion qui se déploie tout au long de cette chanson.
Alors on l'écoute avec plaisir.
Si t'enlèves les histoires, on n'a rien que l'appli pour raconter. L'automne, ton zier noir, les combes des cyclones, tasse café. Si ton pot frisson sous mon doigt, le soir n'a ni un dans la peau causée. Dans ce avec mouillard, comme l'eau des roses sous la rosée. Histoire, monsieur le foie, l'amant son foie avec un grain de sel. Si ou la fin, mon édouard, mette sel sous la quai toitrelle. Dans le temps, t'es fallait croire, l'été comme histoire plein Noël. À soir, c'est mon histoire, m'y vais mélange avec un mamzelle. Ne t'es fait pas taille, quand quand la voir la boutique chinoise. Dans le temps, gramoune et de corps, des fins clément, leurs encerfa. Tordi ou les en sommeil, ça tout l'a dit, m'a raconté. Poussant l'eau de la terre quand la pluie commence à tomber. La dit créole est noire, les vilains y gagnent même pas cause foncée. En plus, ils boivent l'alcool, les films à mal, ils sont mauvais. Chacun a son défaut, mettre pas créole, plus bas que la terre. Les meilleurs passent inquiétant de l'enterrement quand de m'y plaire. Ramon, si ou l'été là, vous n'aurez raconté. Longtemps et moun l'été pauvre, mais l'été fait pas pitié. La diane ou sa comme ma gosse, l'y va ni d'où après. La dose en overdose, le bon margose la peau gâtée. Les mots cas en tol, mon bon camarade créole. Ça te quand la pluie si la tolle, t'es dit n'a point l'école, il t'élève midi. La épée la tombe dans l'alcool, l'ifité la suivre dans l'école. À moi que mon long.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Gaëlle Bellem qui vient de publier Sud Sauvage aux éditions Gallimard. Un recueil de nouvelles, on l'a dit, sous le sceau du fantastique. Dans le sillon d'Edgar Allan Poe, avec des créatures, des maisons hantées, des trésors perdus, des malédictions, des fantômes. Bref, toute une série de situations pour ne plus dormir la nuit ou mourir de terreur. Arrêtons-nous sur quelques-unes de ces histoires avec vous, en tout cas sur le thème qu'elles abordent, parce qu'il ne faut pas trop en dévoiler et surtout pas la fin. Mais ici, par exemple, un dialogue entre un homme vivant et une jeune fille finalement morte 40 ans auparavant. qu'est-ce que ça évoque pour vous? Que les âmes ne partent jamais, qu'elles restent toujours autour de nous, plus ou moins visibles?
Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Je ne sais pas trop. J'ai envie de dire que l'idée, c'était justement, à travers ce recueil de nouvelles, chère Catherine, d'amener les lecteurs à la réflexion. Quelle réflexion? D'amener les lecteurs à se poser des questions. Lesquelles? Est-ce qu'il existe quelque chose? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a des êtres qui ne sont plus de ce monde et qui pourtant ont la capacité d'interférer avec notre réalité et d'interagir avec nous? Moi, j'ai eu une éducation qui est malgré tout extrêmement cartésienne, il n'en demeure pas moins que je reste attentive, réceptive aux différents points de vue. Donc l'idée à travers ce recueil, c'était vraiment d'amener à la réflexion et pas seulement de faire peur. Cette histoire dont vous parliez, et l'histoire donc, une histoire très connue à l'île de la Réunion, l'histoire donc, moi j'ai inventé les prénoms, Joël et Ambre. Joël qui est un homme qui est d'une bonté, qui est d'une douceur incroyable, qui est un peu seul, qui a perdu sa mère il y a peu de temps et qui décide d'aller un soir en discothèque et qui fait la rencontre d'une jeune femme absolument sublime qui correspond à ce dont il a toujours rêvé. Sauf que, voilà, on est dans du fantastique. La question c'est, est-ce qu'il a vraiment rencontré cette jeune femme? Est-ce qu'il s'agissait d'une hallucination ou s'agit-il d'autre chose? Et donc, à travers cette histoire dont je prends bien soin de ne pas révéler la chute, la question c'est, y a-t-il des choses qui existent là où pourtant nos yeux ne voient rien?
Mais vous dites, Gaëlle Bellem, que vous restez ouverte à toutes les hypothèses. Donc ça veut dire qu'une part en vous croit à ce surnaturel.
Il y a une partie de moi, en tout cas, qui ne ferme pas la porte à clé. Une partie de moi n'est pas en non catégorique. C'est pour ça qu'on parle très souvent d'agnosticisme, d'ailleurs, pour désigner ces individus qui accepteront de croire à partir du moment où on leur apportera les preuves de l'existence de quelque chose. Donc, je viens d'une île où il y a beaucoup de superstitions. Je ne dis pas, je m'oppose catégoriquement à ce que j'entends, je n'y crois pas. Je reste attentive.
Et Gaëlle Bellem, si vous pouviez vous parler à quelqu'un de l'au-delà, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire et ce serait qui en particulier?
Oh, j'adore cette question. Je ne m'y attendais pas. Chez les Bellem, les jeunes meurent assez jeunes. On va dire, malheureusement, j'ai perdu une cousine à laquelle j'étais extrêmement attachée. Elle est morte jeune puisqu'elle n'avait que 35 ans. Et je crois que cette hyperactivité que j'ai, je le dis très souvent, mais seulement aux membres de ma famille, c'est parce que je vis pour deux personnes. Je vis pour moi et je vis pour cette cousine que j'aimais beaucoup et qui n'a pas eu le temps de vivre pleinement. Alors c'est elle que je voudrais revoir, c'est avec elle que je voudrais converser, un peu comme Victor Hugo lorsqu'il avait perdu sa fille Léopoldine, a tout fait pour tourner les tables, etc., et pour entrer en communication avec elle. Et pour écrire ce recueil de nouvelles, j'ai consulté à nouveau le livre des tables, donc qui énonce les séances spirites de Victor Hugo, parce que, d'ailleurs, je le cite en tout début de recueil, je sais la douleur de ceux qui ont perdu un être cher et le fait que très régulièrement dans le texte, cette thématique de la mort revienne, c'est lié, vous avez touché à l'os, chère Catherine, c'est lié à mon histoire personnelle et à ce deuil personnel aussi que j'ai connu.
Autre nouvelle très frappante intitulée « Où sont-ils ?» qui là fait référence aux milliers d'esclaves morts en mer, 70 000 écrivez-vous, dont les corps ont disparu mais qui ici ressurgissent sous forme de squelettes échoués sur la plage. Oui. Est-ce que c'est à la mémoire de cette funeste époque que vous voulez rendre hommage?
Oui, oui, oui. Merci d'avoir évoqué cette histoire-là qui me tient vraiment à cœur. L'île de la Réunion a connu au plus haut de l'esclavage 70 000 personnes esclavisées. Et ce qui est étrange, lorsque vous vous rendez à l'île de la Réunion, vous pouvez vous dire, mais où sont les cimetières? Où sont enterrés ces esclaves? Eh bien, il n'y en a pas, chère Catherine. D'où le titre, où sont-ils? Comment 70 000 hommes, femmes, vieillards, enfants peuvent disparaître? Eh bien, c'est cela qui m'a amené à rédiger cette histoire. Et puis, il se trouve que il y a eu un cyclone, il y a quelques années de cela, à l'île de la Réunion. Un cyclone donc qui s'est accompagné évidemment de fortes houles. Et ces fortes houles ont permis de mettre au jour un cimetière d'esclaves qui était en dehors du cimetière officiel où étaient enterrés les maîtres, les propriétaires blancs. Et donc là, j'ai un peu révélé l'histoire, la fin de cette histoire, enfin, pas totalement d'ailleurs, mais oui, à travers ce récit, qui est un petit peu fantastique quand même, j'ai voulu rappeler, rendre hommage à ces esclaves qui ont bâti l'île de la Réunion et qui font malheureusement partie de cette masse anonyme qui traverse l'histoire sans laisser de traces.
Ça veut dire que l'esclavage est encore tabou à La Réunion, vous diriez ?
L'esclavage n'est pas tabou. La preuve, c'est que le 20 décembre, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, est le jour le plus important de l'île. Il n'en demeure pas moins que même si l'esclavage n'est pas tabou, il y a encore beaucoup de recherches à faire en matière archéologique pour connaître les esclaves. Donc ce n'est pas l'esclavage qui est tabou, c'est ce qui nous manque, ce qui fait défaut, c'est qu'est-ce qui est arrivé à ces esclaves, où sont-ils enterrés et pourquoi c'est important. C'est important pour que nous, les descendants de ces esclaves, puissions leur rendre hommage et faire ce travail de mémoire indispensable.
Encore un exemple choisi dans votre recueil Sud Sauvage, Gaël Bellem. Cette nouvelle intitulée Le Tableau, où là encore il y a une touche de fantastique, du même ordre que dans Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
Oui.
Et là vous écrivez, je vous cite, « Des dizaines de personnes chaque année à La Réunion s'en vont de chez elles et ne reviennent jamais. » Fermez les guillemets. Quelle est la raison de cette disparition selon vous ?
Oui, oui, merci, merci d'avoir parlé de cela, oui. On a un problème depuis quelques années à l'île de la Réunion. Oui, des personnes disparaissent. Oui, des couples vont faire des randonnées. L'homme revient, la femme n'est plus jamais retrouvée. Oui, deux parachutistes, un binôme de parachutistes ont disparu en forêt. Peut-être que leur parachute ne s'est pas ouvert. Nous n'avons plus jamais retrouvé leur corps. Oui, un gendarme du nom de Mathieu Kézergue a disparu lors d'une randonnée alors qu'il était accompagné d'autres collègues qui l'ont devancé. Où sont-ils ces individus qui disparaissent dans un territoire qui fait à peine 2512 km2? Certes, la forêt est luxuriante, certes la forêt est dense, mais les sentiers de randonnée sont pas si nombreux et très quasi quotidiennement fréquentés. Donc comment se fait-il qu'on ne retrouve pas les corps ? Et c'est cette énigme-là, c'est ce mystère qui m'a aussi amenée à écrire ce recueil de nouvelles. Où sont ces gens qui disparaissent ? Là encore, on est dans quelque chose d'intrigant. Je n'ai pas voulu aborder très ouvertement ce sujet, hormis dans le tableau, parce que certaines disparitions sont très récentes, parce que j'ai souhaité ménager les familles qui ont perdu un être et qui peut-être l'attendent toujours. Ces individus sont simplement portés disparus, ne sont pas toujours déclarés morts, donc c'est par égard pour eux que je n'ai pas voulu parler directement de ces personnes, mais indirectement à travers le tableau où le personnage qui fait l'acquisition de ce tableau disparaît.
Alors, est-ce que ce sont des disparitions mystérieuses, inexpliquées ou des disparitions criminelles peut-être ?
Il y a les deux. Il y a évidemment des disparitions criminelles. Il y a, oui, bien entendu. Après, je ne suis pas policière, je ne suis pas gendarme, je ne peux pas accuser qui que ce soit. Mais bien sûr que dans un certain nombre de cas, ça relève du fait divers et de la criminalité.
Donc un recueil vraiment ancré à La Réunion, son histoire, sa géographie, ses mythologies et aussi sa langue. Puisqu'ici, avec bonheur, Gaël Bellem, vous écrivez en français et en langue créole, qui n'est pas traduite d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que pour vous, ça coule...
Ça coule de source.
Ça
c'est
coule
tellement
de source.
Simple que ça se passe de traduction. Et pourquoi on retrouve à la fois le français et le créole ? Parce que moi-même, je vis entre Paris et La Réunion. Paris m'apporte ma langue, mon style d'écriture, mes mots sont essentiellement en français. L'île de la Réunion m'apporte les paysages, le décor de mes romans ou de mon recueil, la couleur, on va dire, de ce recueil, la culture créole, l'imaginaire créole que j'introduis. J'ai besoin des deux pour me sentir pleinement moi, parce que j'ai une double culture. Et dans ce roman, certes, il y a des éléments, il y a des passages en créole, mais ils sont d'une telle facilité, avec des, c'est d'ailleurs un créole assez francisé, qu'on n'a pas besoin de préciser en bas de page, même si c'est fait une fois de temps à autre, le sens des mots. Et en même temps, ça permet au lecteur de se sentir, de s'évader et de se sentir à l'île de la Réunion. D'où ce petit jeu sur ce double langage, le français et le créole.
Alors, je ne sais pas si du coup ça pose un défi pour la traduction, parce que vos livres voyagent, il faut préciser, Gaëlle Bellem, que Un monstre est derrière la porte, votre premier roman, a été publié en anglais. Oui. Il a été retenu pour l'International Booker Prize qui sera annoncé prochainement le 20 mai, que le deuxième livre, Le fruit le plus rare, est aussi tout juste traduit en anglais. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une reconnaissance de votre travail ou aussi plus largement de la littérature de La Réunion ?
Les deux, chère Catherine, c'est une reconnaissance de mon travail. Je suis extrêmement fière, je ne m'attendais pas du tout à ce que mes ouvrages soient traduits en anglais, même pour Le fruit le plus rare en italien. Un monstre est là derrière la porte va être traduit en allemand et également en arabe, puisqu'une maison d'édition d'Arabie Saoudite vient d'en acheter les droits. C'est une fierté personnelle, mais c'est aussi une reconnaissance de la littérature réunionnaise qui, il faut l'avouer, peiné jusqu'à présent à s'exporter.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'auteur, vous diriez ?
Il y a une pléthore d'auteurs, mais ces auteurs peut-être ont du mal à trouver aussi des éditeurs dans l'Hexagone. Ce sont souvent des éditeurs locaux, ce qui rend difficile la possibilité ensuite de s'exporter. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de voir sa littérature rayonner lorsque l'on a une maison d'édition hexagonale.
De fait, vous avez fait le choix en effet d'être publié chez Gallimard, une maison hexagonale, tout en continuant de vivre à La Réunion et d'y écrire sur place.
Oui, en fait, comme je vous le disais, je vis entre ces deux mondes, le monde parisien et le monde réunionnais. Mais vous voyez, ce mode de vie-là, entre deux mondes, ce n'est pas un luxe de mondaine, je dirais. C'est une méticuleuse discipline et qui est porteuse pour moi d'un message. Ici, on ne s'extrême droitise pas. Ici, on aime les lumières différentes, on aime les gens différents, on aime à la fois la culture parisienne et l'identité créole. En vivant à la fois à Paris et à La Réunion, je tiens à dire que je construis des ponts. Je construis des ponts aériens, je construis des ponts-levis, je construis des ponts de cordes, mais en tout cas, je n'érige pas des murs entre les peuples.
Merci beaucoup, Gaëlle Bellem, d'être venue nous parler avec tant de générosité de ce nouveau recueil. Je rappelle le titre de ce livre, Sud Sauvage, qui évidemment nous fait frémir, nous fait peur, mais j'imagine que ce n'est pas pour autant pour nous empêcher de venir à La Réunion, rassurez-nous.
Absolument pas, au contraire. Vous savez, une légende dit « Celui qui lit un livre sur La Réunion vient visiter l'île dans les 4 ans qui suivent. »
Ah ben j'espère que cela va m'arriver très prochainement alors.
C'est tout le mal que je vous souhaite.
Merci encore Gaëlle Bellem.
Merci à vous.
Sud Sauvage a été publié donc aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir qui fête ses 25 ans.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Alexandre Cayuela. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.